Se donner.
Oui, en plus, de pas de plus. Oui.
Mais là, oui. C'est allez, on va faire. As-tu fait l'amour hier? Feras-tu l'amour demain?
www.radio-g.fr.
Bonsoir et bienvenue dans Pouce Classique, l'émission consacrée à la musique classique avec tous les genres, tous les styles et toutes les époques. Sur les ondes de Radio G et sur les ondes de l'autre radio, voici donc un nouveau numéro de Pause Classique qui continue à célébrer, eh bien, pendant cette absence de concert, au moins l'actualité du disque et des nouveaux albums. Les artistes classiques continuent plus que jamais à enregistrer les œuvres d'hier et d'aujourd'hui, et on peut dire que tous les 15 jours et même toutes les semaines, l'actualité du disque reste extrêmement chargée. On commence ce soir avec justement la sortie d'un nouvel album pour corps et piano qui sort sous le label Parati. C'est une découverte pour l'émission. Le label Parati, on apprend qu'il a été fondé en 2006 par Bruno Procopio. Procopio est compositeur, claveciniste, chef d'orchestre, et il souhaitait promouvoir la production discographique sous une autre dynamique et philosophie. En créant Parati, Bruno Procopio s'appuie sur des valeurs nouvelles pour approfondir l'avenir du métier. Le label Parati, qui fête sa 270e édition en 2020, accompagne plus de 100 artistes, à la fois orchestre, ensemble, soliste, tout au long de l'élaboration du projet, qui comprend la conception, le financement, la production, l'édition, la promotion et la diffusion. C'est le cas pour cet album consacré donc à la musique française et belge, la musique française du XXe siècle qui resplendit, on le sait, de couleurs. Les riches sonorités mêlées du piano et du cor servent à merveille un répertoire que nous désirions mettre en valeur, mais également permet de l'enrichir. Les deux instrumentistes nous disent: nous brûlions de mettre notre sensibilité au service de Claude Debussy, figure incontournable de l'époque. Pour ce faire, nous avons confié dans cette transcription des Ariettes oubliées les vers de Paul Verlaine au son chanté et poétique du cor. Ce poète offre à notre disque son titre évocateur, Aquarelle. Particulièrement affectionné chez les vents, les œuvres de Jean-Français Petit de rythme et d'humour, Eugène Bozza, compositeur prolifique, notamment pour le cor, profite du caractère pastoral de l'instrument pour peindre des paysages bucoliques et impétueux, chers aux deux passionnés de nature que nous sommes. Quant à Jeanne Vignery, compositrice belge d'influence impressionniste, elle nous livre une sonate héroïque, ludique, romanesque, un vrai chef-d'œuvre. Je vous propose d'écouter ces deux artistes, Alexandre Collard au cor, Nicolas Royer au piano, dans justement un extrait de ces pièces de Debussy intitulé Les Ariettes oubliées. Nous allons les entendre tout de suite dans l'aquarelle numéro 1 qui est intitulée Green, donc verte. La musique de Claude Debussy, Aquarelle, la première intitulée Green. Nous entendions ici Alexandre Collard au corps et puis Nicolas Royer au piano, un disque qui sort donc sous le label Parity. On poursuit à présent avec la sortie pour le label Aparté du Stabat Mater de Haydn et des symphonies 84 et 86 du compositeur. On retrouve Julien Chauvin et son concert de la Loge, accompagné aussi avec l'ensemble Hadès et Mathieu Romain en chef de chœur, ainsi que des artistes lyriques tels que Florie Valiquette, Adèle Charvet, Renaud Van Menschelen ou encore Andreas Wolf. On apprend par le site du label Aparté et bien que ce concert, enfin cet album a plutôt été enregistré à la fois à l'Auditorium du Louvre et à l'Arsenal de Metz en octobre et novembre 2019, le concert de la Loge conclut l'aventure Haydn et son intégrale des symphonies parisiennes avec les 84e et 86e symphonies. Le chef et son orchestre sur instruments d'époque complètent également le programme avec le Stabat Mater de Haydn, une œuvre rarement donnée, bien qu'elle fût l'une des plus jouées du vivant du compositeur. Composée en 1767, on peut à la fois trouver de la sobriété, un caractère contemplatif, mais également du sublime, avec différents airs, en compagnie du brillant ensemble Hadès, sous la direction de Mathieu Romano, et d'un casting de jeunes talents d'exception. Le Stabat Mater de Haydn est véritablement la cerise sur le gâteau, qui permet de conclure ce cycle consacré à Haydn par le concert de la Loge et Julien Chauvin. On entend tout de suite l'ouverture de ce Stabat Mater.
Thank you.
clôturer le cycle consacré à Haydn. On passe tout de suite au label Signum Classics qui nous présente un album intitulé Settecento, permettant d'entendre évidemment de la musique baroque des Italiens avec notamment Alessandro Scarlatti, Evaristo Felici dalla Abaco et Antonio Vandini ou encore Francesco Mancini, Giuseppe Brecianello, Giuseppe Tartini. Sur le site de l'album et du label, on peut donc apprendre ou réapprendre que le Settecento est le style d'art, de musique et d'architecture qui a émergé, en Italie au début du XVIIIe siècle, célébré ici par la Serenissima et Adrien Schindler avec une collection d'œuvres de cette époque. Les œuvres sont regroupées par région d'Italie où chaque compositeur a travaillé, y compris le royaume de Naples pour Scarlatti et Mancini, la République de Venise pour Dall'Abaco, Vandini, Tartini et Vivaldi, et les états pontificaux, Bologne, pour Brecianello. L'ensemble, la Serenissima, est reconnu comme le principal représentant britannique de la musique de Venise du XVIIIe siècle et des compositeurs connectés. De manière unique, l'ensemble du répertoire du groupe est édité à partir de sources manuscrites ou contemporaines. Il est devenu synonyme de virtuosité, de dynamisme et d'accessibilité, découvrant un nouveau répertoire et le mettant à la disposition de tous à travers des performances live, des enregistrements et des initiatives pédagogiques. On écoute tout de suite cet ensemble, et bien dans la musique de Tartini avec l'Allegro assai, extrait d'une sonate pour violon et continuo en mi mineur. Thank you. Martini, compositeur italien. Nous entendions ici un extrait d'une sonate pour violon et basse continue. C'est à l'occasion de la sortie d'un album qui sort pour le label Signum Records et qui permet de se réapproprier tout le style, toute l'invention de cette époque signée Settecento du XVIIIe siècle italien avec l'ensemble La Serenissima et leur chef depuis le violon qui dirige également Adrien Chandler. Un album consacré donc à la musique baroque instrumentale dans différents points géographiques de l'Italie selon les compositeurs qui sont enregistrés. On continue avec la musique baroque, mais cette fois-ci des pièces pour mandoline. On entend tout de suite l'interprète Marifé Pavone, et elle est accompagnée de Juan Carlos Muñoz dans cet album intitulé Les sonates pour mandoline à l'époque baroque italienne, Arte Mandoline, un disque qui sort sous le label Dutch Harmonia Mundi Sony Classical. Je vous propose d'entendre un affettuoso, un troisième mouvement d'une des 12 sonates de chambre pour mandoline à l'époque baroque. Voici donc Marifé Pavone. Thank you. de l'autre radio et sur les ondes de Radio G. Et nous sommes dans l'émission post-classique. Nous entendions ici un extrait des sonates de chambre pour mandoline à l'époque baroque italienne à l'occasion d'un disque qui sort sous le label Harmonia Mundi Allemagne en collaboration avec le label Sony Classical. On profite également de l'émission pour vous signaler la disparition récente en fin de semaine du grand violoncelliste français et pédagogue Jean-Marie Gamard qui a formé toute une génération d'instrumentistes, de violoncellistes, évidemment, puisqu'il était professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Les avis arrivent et je pense que la presse spécialisée et les critiques musicaux vont évidemment lui rendre hommage. En attendant ce soir, eh bien, nous souhaitions vous diffuser un extrait d'un album qu'il avait enregistré en 2011 avec l'orchestre Paul Kuenz. Il était accompagné d'Éléonore Darmon au violon et ils ont profité pour enregistrer le double concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms. On les écoute tout de suite dans l'andante de ce splendide double concerto.
Thank you.
violon et violoncelle, nous entendions violon Éléonore d'Armon au violoncelle Jean-Marie Gamard à l'occasion de sa récente disparition, un disque enregistré en live avec l'orchestre Paul Kuentz en 2011, et nous vous disions que la presse spécialisée allait très certainement en ce début de semaine rendre hommage à cet immense violoncelliste français et grand pédagogue. On poursuit à présent avec les symphonies de Schumann à l'occasion d'une intégrale qui sort par le chef d'orchestre Laurence Foster, accompagné par l'orchestre philharmonique tchèque. Nous vous proposons d'entendre ce soir le dernier mouvement de sa symphonie numéro 2 en do majeur de Maurice Schumann. On apprend évidemment que dans l'ordre chronologique, ce n'est pas la deuxième mais tout bonnement la troisième symphonie. Une symphonie opus 61 composée par Schumann entre 1845 et 1846 après une première période dépressive. Cela peut expliquer le caractère relativement plus sombre avoué par le compositeur lui-même. Je crains qu'on puisse deviner mon état de fatigue en écoutant cette musique. J'ai commencé à devenir un peu plus moi-même au cours de la rédaction des derniers mouvements et j'étais certainement en meilleure forme à l'achèvement de mon œuvre. En effet, c'est ce que nous allons entendre précisément dans le final qui n'a pas du tout une allure dépressive. Cela me rappelle, nous dit Schumann, une période sombre de ma vie, écrivait-il à un ami. Elle est la deuxième du nom, mais la troisième par ordre chronologique. Il débute sa quatrième symphonie en 1841, même s'il acheva quelques années plus tard. Il en esquissa le contenu en décembre 1845, mais n'en acheva la partition qu'en octobre 1846. La première représentation fut donnée par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig le 5 novembre 1846 sous la direction, tenez-vous bien, de Félix Mendelssohn. Elle comporte 4 mouvements et dure approximativement 30 minutes. L'orchestration requis est 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cordes, 2 trompettes, 3 trombones, timbales et cordes. Voici le dernier mouvement de la symphonie numéro 2 en ut majeur de Robert Schumann par l'orchestre philharmonique tchèque et Laurence Foster à la direction. triomphant en do majeur, nous entendions justement le dernier mouvement de la deuxième symphonie de Robert Schumann par l'orchestre philharmonie tchèque et leur chef Laurence Foster. C'est à l'occasion de la sortie d'un album consacré à l'intégrale des symphonies de Schumann, quatre symphonies que compose le compositeur. Cette symphonie numéro 2 fut achevée en 1846. Un disque, un album à retrouver sous le label Pentatone. On termine à présent, une fois n'est pas coutume, par l'opéra et avec le merveilleux baryton français Ludovic Thésier qui sort un album consacré à Verdi. On peut lire sur le site forumopéra.com, le magazine du monde lyrique, et bien que Verdi est le baryton, nous dit Christophe Rizou, c'est une grande histoire d'amour initiée entre autres avec Nabucco, alors que le compositeur cherchait à tracer son chemin sur les sentiers épineux de la gloire, poursuivi ensuite pendant un demi-siècle jusqu'à Falstaff et qui perdure aujourd'hui à travers ses meilleurs interprètes. Verdi, nouveau Pygmalion, dont la Galatée serait cette tessiture naturelle entre basse et ténor, gorgée de vitamines, afin de passer dans l'histoire de l'art lyrique du second au premier plan. Époux jaloux, père abusif, roi déchu, combien la France a-t-elle compté de grands barytons verdiens, 2, 3, 5, pas beaucoup plus, peu importe. Elle en tient un aujourd'hui, un vrai, qui crache du son et des notes comme jaillit la lave du volcan, brûlante, résineuse, érubescente, Ludovic Thésier, dont un premier récital chez Sony illumine l'actualité discographique. On l'entend tout de suite dans un extrait du Rigoletto de Verdi. Vous allez tout de suite comprendre l'intensité dramatique de ça.
Oh! Pietà, pietà, signori, pietà, signori, pietà.
Français Ludovic Thésier dans un extrait du Rigoletto de Verdi. Nous étions dans l'acte 2, c'est à l'occasion d'un album qui sort pour le label Sony Music Entertainment. Ludovic Thésier est évidemment accompagné par l'orchestre du théâtre communal de Bologne avec à la direction Frédéric Chasselin. Le Rigoletto de Verdi, eh bien, vous l'aurez compris, permet à la voix, permet au compositeur via cette voix du baryton, eh bien, d'exprimer toute la rage que peut ressentir un père jaloux, un père abusé parce que justement sa fille a subi eh bien différentes pressions, différentes séductions. Nous sommes à Mantoue et dans ses environs au XVIe siècle. Rigoletto, bouffon du duc de Mantoue, séducteur dépravé, protège secrètement sa fille Gilda à l'abri des regards et des dangers. Aussi, la malédiction du comte Monterone à son égard terrifie-t-elle Rigoletto, dont le costume de bouffon de cour cache un père aimant et protecteur. Séduite par le duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans qui l'amènent jusqu'à la chambre de leur maître, Gilda s'enflamme pour son amant volage, son premier amour. Rigoletto, lui, s'estime déshonoré et entreprend de se venger du duc qui court se gaver d'autres femmes. Sitôt Gilda séduite, le bouffon engage alors l'assassin Sparafucile pour qu'il tue le duc en pleine nuit. Mais Gilda est prise jusqu'au bout de l'homme qui l'a conquise, se glisse secrètement à sa place au moment où l'assassin doit frapper et tombe sous ses coups. C'est le corps de sa fille que Rigoletto récupère effondré. C'est là l'ultime volée de la malédiction des Monterone. Vous l'aurez compris, une opéra de maturité, nous redit le site operaonline.com. Rigoletto est le premier volet d'une trilogie dite populaire que Giuseppe Verdi poursuivra avec Le Trouvère et La Traviata. Populaire en ce que les mélodies ravageuses se succèdent à un rythme effréné avec des airs et des chœurs qui sont d'emblée passés dans l'imaginaire collectif et qui s'intègrent parfaitement au drame inspiré d'une pièce de Victor Hugo. Par ailleurs, ce Rigoletto est peut-être le premier des chefs-d'œuvre verdiens à sonder les affaires du cœur avec autant de pudeur et de délicatesse. Bref, vous l'aurez compris, un opéra que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir si vous en avez l'envie et le temps. De nombreuses plateformes proposent évidemment de voir avec de très belles mises en scène ce Rigoletto de Verdi. Nous pensons aux plateformes de l'Opéra de Paris, mais encore une fois à la très belle plateforme de l'Opéra de New York, le Metropolitan de New York, où de nombreuses mises en scène sont proposées en podcast. Voilà, Pause Classique, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec toujours plus de musique. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et à très bientôt sur Radio G. Eh bien, c'est Intoxica présenté par King Olivier sur notre radio. C'est le début des programmes de la nuit. Bonne soirée.
radio-g.fr.